Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le premier numéro de l'automne et l'on sait que dans la région, le début de l'automne est riche en événements musicaux en tout genre. Nous vous avons présenté la semaine dernière la programmation du festival Passe ton bac d'abord qui se tient ce week-end du 24 au 26 septembre à Toulouse. Dans le même temps, Piano Jacobin se termine puisque le concert de clôture a lieu également ce dimanche 26 septembre. Mais déjà d'autres manifestations s'annoncent et la présente émission a pour but de vous les présenter le plus exhaustivement possible. Pour ce faire, toujours fidèle au poste, j'ai le plaisir de retrouver Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, un autre fidèle de Mélomanie et notre invité d'honneur aujourd'hui, Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban. Il est aussi le fondateur et le directeur artistique d'un festival dont la 7e édition se déroule du 1er au 10 octobre à Montauban, mais aussi dans le Tarn-et-Garonne. Passion baroque, c'est son nom, dont la thématique est dédiée cette année aux compositeurs français des 17e et 18e siècles et à leur musique à danser. Nous allons vous présenter la programmation de ce joli festival en seconde partie d'émission. Dans les médias, petit retour arrière sur l'actualité musicale récente.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue aussi à tous les deux. Et d'emblée, Jean-Marc Andrieux ne va pas être trop dépaysé lors de ce début d'émission, dans la mesure où nous allons le consacrer à un concert où la musique baroque était reine. Mardi, les Arts Renaissants accueillaient à Saint-Pierre-des-Cuisines l'ensemble Jupiter et la mezzo-soprano Léa Descendré, autrement dit la jeune et brillante génération de la scène baroque française. Il s'agissait d'un des concerts prévus la saison passée, reporté en raison de la crise sanitaire. Il était entièrement consacré à des œuvres de Georg Friedrich Händel. Serge Chosy a assisté à ce concert. Alors comment s'est passée cette première très attendue de l'ensemble Jupiter et Léa Descendré à Toulouse?
Alors d'abord il faut préciser que ce concert, enfin pas ce programme d'ailleurs, mais ce concert a été reporté de multiples fois en raison évidemment des circonstances sanitaires que nous connaissons, que nous subissons. Mais cet ensemble qui est un ensemble récent puisqu'il a été créé en 2018, par le luthiste Thomas Dunford, qui est d'ailleurs toujours son directeur artistique, évidemment. Donc, ce concert était consacré à un nouveau programme qu'ils inaugurent ce mois-ci, c'est tout frais, consacré à des airs de Händel. Et il y avait, non pas une, mais deux solistes, puisqu'il y avait Léa Desandré et le contre-ténor Yestin Davis, qui tous les deux alternaient dans une série d'airs, mais l'importance et l'intérêt de ce concert, ça n'était pas simplement une succession d'aria d'Händel, qui a priori, s'il n'y a pas de ligne directrice, ça peut finir par ennuyer. Donc là, pas du tout, il y avait un intérêt soutenu pour la bonne raison que Thomas Dunsford et ses complices ont conçu ce nouveau programme comme un puzzle musical. C'est-à-dire qu'ils ont rassemblé une vingtaine d'arias quand même, extraits des nombreux oratorios composés en anglais, par le plus britannique des compositeurs allemands, quand même, il faut le rappeler, Händel, et avec astuce et imagination, ils ont organisé cette succession comme pour composer une histoire d'amour entre deux personnages. Les deux personnages qui étaient les deux solistes qui chantaient. Donc, on avait l'impression d'assister à un mini-opéra, en quelque sorte, de Händel, recomposé à partir d'air d'oratorio. Donc, c'était très intelligemment fait. Et cette histoire qui a été donc imaginée par Thomas Dunford et ses complices, en quelque sorte, eh bien, elle était racontée, avec humour, évidemment, quand on le connaît, par Thomas Dunford lui-même.
Oui, oui, théorbiste, luthiste, ah, enfant oui. De la balle, parce que c'est un fils de musicien, de grand musicien d'ailleurs, Thomas Dunford. Son père est américain, si je ne me trompe.
Jonathan Dunford.
Voilà, fils de Jonathan Dunford. Merci Jean-Marc Andrieux. Et donc cet ensemble Jupiter qu'il a fondé est récent. Hein, et il y a beaucoup de jeunes très bons musiciens. Il y a Bruno Philippe, le violoncelliste, que moi j'avais découvert il y a 10 ans, parce qu'il était finaliste du concours Navarra. Et dans les 3 finalistes, il n'avait pas gagné, mais enfin j'avais découvert à ce moment-là. Et puis depuis, il a fait son volume de chemin. Quant à Léa Descendré, mezzo-soprano franco-italienne, oui. C'est pour ça qu'on dit descendré, pas de cendre, comme on le disait un peu au début. Eh bien, elle aussi, elle fait une très très belle carrière, magnifique même, un peu découverte, lancée par William Christie. Elle avait été lauréate de, je crois que c'était la 7e édition du Jardin des Voix à l'Académie des Arts Florissants, dans les jardins de la propriété en Vendée. Donc de William Christie, impressionnant début de carrière pour cette jeune mezzo-soprano de seulement 28 ans, qui a été engagée au Festival de Salzbourg en 2020 pour chanter Despina dans Cose fan tutte. Voilà, révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2017. Alors comment vous l'avez trouvé, cette voix de Léa Descendré?
Alors cette voix, tout d'abord, j'ai trouvé que c'était plus une voix de soprano que de mezzo, hein. Elle a une voix extrêmement claire, lumineuse, très belle, très ronde, une agilité impressionnante. Évidemment, dans les airs d'Endel, il y en a certains qui sont des véritables pyrotechnies vocales. Hein. Et là, elle fait ça avec une aisance. C'était vraiment impressionnant. Hein. Elle a chanté certains airs, plusieurs airs, et des duos aussi, avec son compagnon, donc contre-ténor, qui lui est britannique, et les deux voix se mariaient parfaitement, mais évidemment la voix de Léa était beaucoup plus claire, celle du contre-ténor était la voix grave, hein, en quelque sorte. Donc ça faisait des échanges absolument magnifiques, et ce qui était intéressant, c'est que les deux chanteurs avaient la possibilité non pas simplement de briller tout le temps, mais ils pouvaient déployer des raffinements, des subtilités incroyables, hein, dans les différents airs, donc une vingtaine d'airs, hein, c'est pas n'importe quoi. Et puis Endel, vocalement, ça éprouve quand même, hein. Et ben là, ils ont fait ça avec une aisance incroyable, avec cette histoire. Alors on a suivi l'histoire de ces deux personnages, de leur rupture, leur dispute, puis leur réconciliation, avec des airs extraits d'opéra complètement différents, d'oratorio, puis il y avait des oratorios que j'avoue moi-même ne pas connaître.
Bah, il y en a beaucoup de Handel,
Théodora, Hercule, assez mêlé, oui, ça c'est assez connu, Solomon, Suzanne, Saül, Joseph, enfin, il faut dire que Handel...
Oui, prolifique, très prolifique.
Très, très prolifique, et donc on n'est peut-être pas, certainement pas d'ailleurs...
Bah, parce qu'ils sont très peu joués aussi. Hein.
Qu'il a composé,
ils sont très peu joués, donc oui, on ne les connaît pas.
Et puis certaines n'ont peut-être pas été retrouvées, donc il y en a qui se perdent, hein. Il y avait des cantates de Bach qui se sont perdues. Bon, donc, c'est vraiment un concert extrêmement vivant.
Et avec de l'humour, vous nous dites.
Et avec beaucoup d'humour, ah oui.
Alors, d'autant plus d'humour que Thomas Dunford, non seulement il a de l'humour, mais il n'est pas jaloux. Parce que c'est le compagnon à la ville de Léa Descendré.
Et
là, ce n'est pas lui qui jouait l'amoureux.
Non, absolument. Alors, c'est amusant.
Est-ce que
parce
de temps à autre, le luth n'intervenait pas pour semer la brouille entre les deux amoureux?
En tout cas, ça ne s'est pas vu. Ça s'est peut-être fait en coulisses, mais il parlait des amours de Léa et Yestine. Yestine, qui est le prénom de ce contre-ténor. Donc,
il n'est vraiment pas jaloux.
Ah non, pas jaloux, pas jaloux. Et donc, vraiment magnifique. Avec une intervention, une seule pièce était uniquement instrumentale. C'était, alors, une œuvre hyper célèbre, la Sarabande de la suite numéro 4 en ré mineur de Bach. Mais alors qu'il a transcrit, il débute uniquement avec le luth et le clavecin. Une espèce de duo entre luth et clavecin. C'était formidable, vraiment. On retenait sa respiration parce que c'était très bien fait. Et puis l'orchestre vient après. Ils étaient quand même 7 musiciens, hein, présents dans l'orchestre. Et l'orchestre ne s'est pas contenté d'accompagner passivement les airs, mais vraiment participer aux échanges. Ça a été une très belle soirée, très très belle soirée.
Voilà, puis Léa Descendré qui était un petit peu à domicile parce qu'elle a ses grands-parents qui habitent à Aucanville, en périphérie toulousaine. Je l'ai dit en passant parce que peut-être qu'ils nous écoutent, on ne sait pas. Eh bien, on permettra de dire qu'ils peuvent être très fiers de leur petite fille. On va les écouter maintenant, ces jeunes musiciens talentueux de l'ensemble Jupiter, accompagner Léa Descendré. Alors, c'est pas dans un air d'Endel, parce qu'initialement, ils devaient chanter un programme où il y avait beaucoup de Vivaldi. Finalement, ça a été changé un peu au dernier moment avec du Endel et rien que du Endel. On va les écouter dans l'air Vedrò con mio diletto, extrait de l'opéra Giustino d'Antonio Vivaldi.
Thank you.
magnifique, Léa Desandré, accompagnée par l'ensemble Jupiter dans cette interprétation de Vedrò con mio diletto, air extrait de l'opéra Giustino d'Antonio Vivaldi. J'espère qu'on aura vite l'occasion de les revoir et les entendre à Toulouse. En attendant, vous pouvez noter que le prochain concert des Arts Renaissants est prévu mardi 5 octobre à 20h, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est l'ensemble Correspondance qui va s'y produire avec un programme de motets et œuvres sacrées de Marc-Antoine Charpentier du baroque français. Ça tombe bien. Voilà donc pour ce bref retour arrière. Nous faisons maintenant la petite pause habituelle avant de nous retrouver dans quelques secondes avec Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux pour vous présenter la 7e édition de Passion Baroque. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31, le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban, également fondateur et directeur artistique du festival Passion Baroque. La 7e édition se tient donc du 1er au 10 octobre à Montauban et dans divers autres lieux du Tarn-et-Garonne. Je l'ai annoncé au début de ce numéro, la programmation du festival 2021 est largement dédiée aux compositeurs français des 17e et 18e siècles et il est précisé, bien précisé, que leur musique était avant tout une musique à danser. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que vous ayez retenu ce thème cette année, Jean-Marc Andrieux, ou est-ce tout simplement parce qu'il était dans les cartons depuis quelque temps et qu'il fallait bien l'aborder un jour ?
Oui, bonjour, merci pour cette question qui va me permettre d'expliquer le choix de ce thème. En fait, c'était deux envies. D'abord, l'envie de revoir Béatrice Massin, avec qui j'avais travaillé il y a quelque temps, et je me disais que à la moindre occasion, je l'inviterais à venir nous voir à Montauban. Et puis, une envie irrésistible aussi de monter un programme sur les suites orchestrales des opéras de Rameau. Donc voilà, deux occasions qui ont fait que la musique à danser s'est retrouvée dans mes pensées, s'est imposée naturellement et je souhaite faire partager ce plaisir-là au plus grand nombre.
Alors vous avez parlé de Béatrice Massin, il faut nous dire qui est cette dame.
Oui, Béatrice Massin, c'est une des grandes chorégraphes spécialistes de danse baroque qui a créé cette compagnie Les Fêtes Galantes et qui aussi a chorégraphié notamment le film Le Roi Danse que tout le monde connaît.
Et dont nous reparlerons dans quelques minutes. Passion Baroque, c'est donc à Montauban et je le disais dans le Tarn-et-Garonne. On pourrait presque rebaptiser ce département le Tarn-et-Baroque le temps du festival.
Pas mal.
La première partie de cette 7e édition se passe d'ailleurs essentiellement en dehors de Montauban et vous ouvrez vendredi 1er octobre à 21h au château de Gramont avec un duo formé par le gambiste Étienne Mangot et le violoniste Flavio Losco qui vont donner un programme de Vienne à Hambourg. Ce sont deux musiciens que vous connaissez bien pour la bonne raison qu'ils jouent souvent avec les Passions.
Oui, bien sûr, ce sont les chefs de pupitre habituels de l'orchestre, Flavio Losco et Étienne Mangot. Et donc là, je leur ai demandé de venir se faire plaisir et de venir faire plaisir au public. Évidemment, on n'est pas dans le thème annoncé, mais c'est pas grave, il ne faut pas non plus ne faire que des œuvres qui correspondent au thème choisi. Donc je leur ai laissé carte blanche et ils ont proposé ce beau programme qui va nous faire voyager en Allemagne.
Alors de Vienne à Hambourg, quels sont les compositeurs qu'on va pouvoir entendre et quelles œuvres à cette occasion avec ce duo viol de gambe violon.
Viol de gambe violon. Oui, alors, incontournable, c'est à Vienne, c'est Mozart, Haydn, bien sûr, deux grands génies du classique, mais aussi Telemann qui était une des grandes stars baroques à la fin de l'époque baroque et un compositeur que j'aime beaucoup qui est Carl Philipp Emanuel Bach. Un des fils de Bach, le deuxième, qui était claveciniste à la cour de Frédéric II, et qui, lui, a ouvert la voie à la période classique.
Il a fait la transition. Hein.
C'est lui qui a inspiré Mozart. Hein, voilà. Donc, on va voir cette période de transition assez passionnante.
Voilà, la période de transition entre le baroque finissant et le classique naissant. Alors, je précise que ce concert est redonné deux jours plus tard, dimanche 3 octobre à 11h, dans un autre château, le château de Lamotte à Bardigues. Entre-temps, samedi 2 octobre à 18h au cinéma Les Nouveaux Bleus à Beaumont-de-Lomagne, vous proposez avec Les Passions un concert-conférence dont l'accès est gratuit et que vous avez intitulé « L'émotion de la découverte ». Expliquez-nous un peu de quelle découverte il s'agit.
Oui, effectivement, depuis quelques temps, chaque année, nous participons à la fête de la science à Beaumont-de-Lomagne, à la maison Fermat. La maison, vous savez que Pierre de Fermat est né à Beaumont-de-Lomagne, et donc sa maison natale est un centre culturel, un centre de ressources sur les mathématiques. Mais chaque fois, ils organisent à l'occasion de la fête de la science des conférences sur un thème scientifique. L'année dernière, c'était sur l'aléatoire, les fractales il y a 2 ans. Et chaque année, donc, on participe en essayant de trouver un lien musical avec le thème de la fête de la science. Donc l'émotion de la découverte, c'est pas de moi, c'est le thème de la fête de la science de cette année. Et donc là, je me suis dit, on va essayer d'être ému, de découvrir des partitions que personne n'a jamais jouées depuis qu'elles dorment dans les bibliothèques. Donc je suis allé au fin fond de la bibliothèque de Toulouse, de rue du Périgord, du patrimoine, chercher des partitions qui, j'espère, n'ont jamais été jouées. Alors ce sera des sonates d'Hôtel, d'Azaïs, de compositeurs pas connus, et en plus des œuvres pas connues de ces compositeurs pas connus. Et j'espère qu'on sera ému de découvrir cette musique. Ah,
si vous les avez choisies, elles ne doivent pas être trop moches en plus.
Après, je dois vous dire, j'ai quand même un peu sélectionné. Autant vous dire qu'il y a certaines œuvres, ce n'est pas la peine de les ressortir.
Là, on retrouve le Jean-Marc Andrieux chercheur. Hein,
absolument.
Je sais que vous n'êtes pas seulement musicien, vous êtes un chercheur.
Mais c'est formidable de redécouvrir des œuvres qui ont été oubliées, et quelquefois oubliées injustement. Hein, donc,
oui.
Très bien.
Quelquefois, on trouve des trésors, c'est peut-être un mot. Mais on trouve des petits bijoux.
Pépites.
Et c'est émouvant de voir un petit bijou. Imaginez, vous êtes dans un grenier, vous ouvrez un coffre, vous trouvez le collier de votre arrière-arrière-grand-mère. Mais c'est un peu ça qu'on va faire avec la musique.
Est-ce que ces partitions étaient toutes complètes, ou est-ce qu'il faut parfois trouver quelle note il manque à un endroit
Non, celles que j'ai sélectionnées, elles sont bien lisibles, mais il arrive parfois, effectivement, que les souris aient un peu mangé quelques notes. Ça m'est arrivé.
Il faut se crever la tête pour reconstituer.
Et là, on réfléchit, on retrouve les notes. Par déduction, on arrive à les retrouver.
Et bien en bas, vous signez Andrieux, du coup. Il n'y a pas de raison.
Non.
Allez, on arrête de plaisanter. On retrouve les passions le lendemain, dimanche 3 octobre à 18h30 à Corps de Tolosane, à la très belle habitation. De Belperche, c'est vraiment un endroit magnifique, avec un programme de concerto baroque de Télémane, encore lui, Vivaldi et Boismortier. Alors les deux premiers, on voit à peu près de qui il s'agit, mais Boismortier, il va falloir nous dire qui est ce compositeur.
Oui, c'était un compositeur français, fin 17e, début 18e, qui a eu un très très grand succès à Paris. Il est passé par Perpignan et il a fait une belle carrière de musicien. Il touchait à tout, il a écrit beaucoup beaucoup d'œuvres, il a écrit des méthodes, il a eu une œuvre vraiment très féconde. Et je crois que c'est intéressant de mettre en valeur le violoncelle à cette occasion et de faire entendre un compositeur qui a écrit plutôt bien pour le violoncelle. Voilà. Donc Étienne m'a proposé de jouer ce concerto et bien sûr j'étais tout à fait d'accord.
Joseph Baudin de Boismortier, alors c'est un contemporain quasi exact de Jean-Sébastien Bach parce que c'est 1689, sa naissance, 1755, sa mort. Alors c'est rigolo parce que j'ai vu qu'il était réputé pour être tellement distrait, ce monsieur, qu'il était incapable de diriger ses propres œuvres.
Ah, ça, je ne le savais pas.
Il donnait toujours la baguette à quelqu'un d'autre parce que lui, il ne savait pas. Je ne peux pas jouer mes œuvres. Diriger mes œuvres en tout cas. Télémane, Vivaldi, vous allez jouer quelles œuvres ?
Alors Télémane, c'est le quadro en la mineur. Ça, c'est vraiment une œuvre que j'affectionne par-dessus tout. Et Vivaldi, ça va être un concerto en sol mineur. Alors la formation, en fait, il y a 3 instruments solistes qui sont la flûte à bec, le hautbois et le violon. Et donc, ils sont mis en valeur dans ces 2 concertos de Télémane et Vivaldi. Et puis, c'est pour ça qu'on fait aussi jouer... Et le basson, pardon, j'oublie le basson qui est soliste dans le Vivaldi. Et puis, le violoncelle aura aussi son rôle de soliste. Donc, tout le monde en aura.
Musique plutôt pré-sautière, un peu festive.
Musique virtuose, ostentatoire et festive. Voilà, je dirais ce mot-là, festive.
Eh ben, c'est très bien. Pour vous donner une idée de ce programme, alors j'ai pas les œuvres en question, mais on va écouter un extrait du concerto en fa majeur pour flûte à bec et cordes de Vivaldi, également connu sous le nom de Tempesta di Mare. C'est une version des Passions de Montauban, et le flûtiste est un certain Andrieux. Moi, je connais. Il est bien ce gars.
Écoutez, on va l'écouter. Vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez.
On va écouter d'abord. Vous avez raison. C'est plus sûr.
Je tremble un peu, je dois dire.
On vous écoute avec vos musiciens, Jean-Marc. Thank you. concerto en fa majeur pour flûte à bec et cordes de Vivaldi, Tempesta di Mare, interprété par les Passions de Montauban, qui accompagne ici la flûte de Jean-Marc Andrieux. Eh bien, il est pas mal ce flûtiste, vous avez bien fait de le prendre finalement.
Merci.
Et vous pouvez donc retrouver les mêmes dimanche 3 octobre à 18h30 à Cordes Tolosane, à l'abbaye de Belleperche, avec un programme de concerto baroque de Telemann, Vivaldi et Boismortier. Il y a une autre tradition à Passion Baroque en dehors de ces concerts dans les hauts lieux du patrimoine Tarn-et-Garonnais, c'est la soirée au cinéma La Muse à Bressols, avec la projection d'un film dont le sujet illustre la thématique du festival, donc cette année la musique baroque française et la danse. Et ça tombe un peu sous le sens, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, Jean-Marc, vous avez choisi Le Roi Danse, réalisé en 2000 par Gérard Corbiot, qui va être projeté jeudi 7 octobre à 20h. Rappelez-nous rapidement quel était le sujet, qui étaient les personnages principaux de ce film.
Oui, mais les deux personnages principaux, c'est Louis XIV, bien sûr, le roi soleil qui a fait danser tout le monde. Il faut dire que déjà son père, Louis XIII, faisait déjà danser tout le monde. On croit que c'est Louis XIV qui a inventé la danse
à la cour.
À la cour, c'est Louis XIII. Donc, il a hérité ce goût de la danse de son père et il va faire danser, comme chacun sait, tout le monde, avec un de ses surintendants préférés, qui est Lully, Jean-Baptiste Lully, qui tient un rôle dans le film aussi important qu'antipathique. Comment dire, voilà, il est traité, mais enfin, c'est plutôt bien vu.
Voilà, la danse à la cour du Roi Soleil qui est au centre de ce film projeté, donc c'est Benoît Magimel.
Benoît, voilà, je voulais dire que c'est Benoît Magimel qui est fantastique, et puis le travail qu'ils ont fait de danse, de reconstituer avec Béatrice Massin, justement, qui va parler du travail qu'elle a fait avec eux.
Alors,
vous alliez peut-être le dire.
Absolument. Hein. Parce que
je suis désolé. Oui.
Non, mais vous faites très bien d'anticiper, parce que la séance est précédée à 18h d'une discussion débat entre vous-même et Béatrice Massin, cette fameuse Béatrice Massin, qui a donc chorégraphié les scènes dansées du film. Voilà, ça va être passionnant aussi, parce qu'elle veut nous expliquer de l'intérieur comment tout ça
comment
a été conçu.
Comment elle les a fait travailler.
Oui,
je crois que ça va être vraiment très très intéressant.
Voilà, et puis comme on n'a peur de rien, il y a aussi un buffet après la discussion débat, buffet cuisiné par l'excellent restaurant La Coulée Douce. On sait vivre quand même à Passion Baroque.
Ah, quand même, il faut se soigner.
Avant le film, il faut se restaurer.
C'était aussi une époque très culinaire, hein.
On faisait bombance, et puis tous les jours, et même midi et soir, je pense. Je suis content que nous ayons donc parlé de Béatrice Massin, parce que nous allons maintenant aborder la partie montalbanaise du festival, avec une première proposition mardi 5 octobre à 20h30 au Théâtre Lame de Gouges, le très beau Théâtre Lame de Gouges. Et il ne s'agit pas d'un concert, justement, comme on pouvait s'en douter, mais d'un spectacle de danse conçu par Béatrice Massin avec sa compagnie Fête Galante. Ce spectacle a pour titre Abaca, et je vais vous laisser nous le présenter parce que c'est quelque chose d'assez particulier tout de même.
Oui. En fait, il ne s'agit pas d'un spectacle historique, mais de danse contemporaine inspirée quand même de la danse baroque. Et ce mot de Abaca, tout simplement, c'est les lettres A-B-A-C-A. Et A-B-A-C-A, c'est la forme du rondo, A étant le refrain, et avec les couplets B et C. S'il y avait un couplet D, ça s'appellerait Abacada.
Oui, Abaca, c'est bien. Voilà,
mais Abaca, déjà, c'est pas mal.
Abracadabra,
voilà, c'est juste la structure du rondo.
Et les musiques qu'on va avoir, les danseurs, ils vont tourner sur quelle musique?
Oui. Alors, donc, il y aura des musiques de Purcell, je crois, Falconieri, Handel. Il y aura aussi de la musique contemporaine. De Juliette, notamment.
Oui, il y a une chanson de Juliette.
C'est une création contemporaine. Et là, je voudrais vraiment inciter le public à venir voir ce spectacle.
Ça, c'est une curiosité,
Très curieux, très original, et qui éclairera aussi notre perception de la danse d'une autre lumière.
On va reparler de Béatrice Massin un peu plus tard, parce qu'elle donne aussi des conférences. On parlera un peu de son parcours, qui lui aussi est très original. Pour se mettre dans l'ambiance musicale de ce spectacle, je vais redire le mot très original, voici une des pièces que l'on peut y entendre. Béatrice Massin a beaucoup utilisé de musique extraite du CD Handel Goes Wild, enregistré il y a quelques années par l'ensemble L'Arpeggiata de Christina Pluhar, par exemple cette Symphonia arrangée par Christina Pluhar à partir d'un air de l'opéra Alcina. Thank you. Symphonia, extrait de l'opéra Alcina de Handel, interprété par l'arpeggiata dans un arrangement signé Christina Pluart. C'est une des musiques que l'on peut entendre dans le spectacle Abaca que donne la compagnie Fête Galante sur une chorégraphie de Béatrice Massin, mardi 5 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges de Montauban. Passion baroque, c'est vraiment un festival à la croisée des arts et il n'y a pas que la danse qui est concernée. La littérature l'est également, et ça c'est pas une nouveauté, c'est depuis quelques années. Il y a un premier rendez-vous mercredi 6 octobre à 20h30. Ça va se passer à l'auditorium du conservatoire à rayonnement départemental de Montauban. Cette soirée, il y a un duo formé par la pianofortiste Yasuko Yamabouvar, que personne ne connaît à Toulouse, et la comédienne Nathalie Vinault. Que vont-elles jouer et lire en alternance?
Oui, l'idée c'est chaque année d'inviter un écrivain qui a écrit sur la musique. Et il passait à, je l'ai entendu ce matin à France Inter, Mathieu Mégevin. Non, à France Musique il est passé.
Je crois qu'il est suisse, il n'est pas français.
Oui, bon. Il est suisse. Et il a écrit un magnifique roman qui vient de sortir, qui est Tout ce qui est beau. Il parle de Mozart, des moments importants de la création de Mozart et le lien entre l'œuvre de Mozart et la beauté. Donc l'idée, c'était de faire lire avec une comédienne des extraits du livre et les pièces de Mozart, notamment la sonate en la mineur, qu'il a écrit à Paris quand il était tout seul, un peu avant qu'il perde sa mère. Cette sonate, Yasuko va la jouer en contrepoint des lectures du roman. Voilà. Et Mathieu Mégevin, qui ne peut pas être là mercredi, reviendra nous voir samedi.
Ouais, on va l'annoncer, effectivement, voilà. C'est important. Et puis bon, Yasuko Yamabouvar, je plaisantais, mais tout le monde la connaît à Toulouse, évidemment.
Ah, bien sûr.
Et je suppose qu'elle jouera avec son pianoforte.
Elle va apporter
magnifique instrument,
son pianoforte de Christopher Clark, voilà. Qui est une copie d'un piano que Mozart a joué. Donc on va entendre le piano de Mozart.
Voilà, le son tel qu'il était à l'époque.
Exactement.
En tout cas, on peut le présumer.
Comme on l'a fait entendre l'année dernière, au festival de l'année dernière, on a joué les 20 et 21e concerto de Mozart sur ce même piano extraordinaire.
Ah, et puis, je me permets d'ajouter que Nathalie Vinault, que je connais un peu, est une excellente comédienne, une très bonne lectrice. Donc, excellent choix. Il y a un autre haut lieu du patrimoine montalbanais qu'il faut forcément mettre en valeur durant le festival, c'est le magnifique musée Ingres Bourdelle. Jeudi 7 octobre à midi, il va y avoir un concert donné par la violoncelliste Pauline Lacambra, qui joue souvent avec les Passions de Montauban et qui est de Toulouse, et le claveciniste Yvan Garcia. Alors c'est très intéressant, d'une part parce que ce sont deux excellents musiciens, et d'autre part parce qu'ils vont jouer des œuvres pour violoncelle composées par ce qu'on pourrait appeler les petits et grands maîtres de l'école française du 18e siècle. Alors on va retrouver ce bon vieux Boismortier, mais il y en a d'autres.
Oui, là j'ai demandé à Pauline, qui joue régulièrement avec nous, que j'aime beaucoup, de se pencher sur cette école française du violoncelle. Au XVIIIe siècle, il y a eu des virtuoses remarquables qu'on ne connaît pas assez. Alors je lui ai dit, écoute, essaye de nous trouver vraiment des œuvres intéressantes. Je pense à Barrière, justement, qu'elle va jouer. C'était un des grands virtuoses français du violoncelle. Et je suis très heureux qu'elle mette au programme. On va retrouver évidemment Boismortier, qui était incontournable. Corrette aussi, à
Michel
qui on doit Michel Corrette, de belles œuvres attachantes, avec une sorte de simplicité, de spontanéité italienne, toujours bien agréable. Et puis aussi, il y aura des clins d'œil à la viole de gambe, mais qu'elle jouera sur le violoncelle avec Couperin et Forqueret. Donc avec son complice Yvan Garcia, qui joue très souvent aussi avec nous du clavecin. Je suis très très heureux qu'il puisse venir. Et puis c'est l'occasion, on l'a dit, de voir des lieux emblématiques montalbanais, et l'occasion de voir notre nouveau...
Il a été rénové il y a deux ans.
Je dirais deux ans, mais il faut vraiment voir ce musée Ingres Bourdelle. La scénographie est sublime, il faut vraiment venir voir.
Mais on a la chance d'avoir dans la région, en tout cas dans la région toulousaine, à moins d'une heure de route, le musée Toulouse-Lautrec Albi et le musée Ingres Bourdelle, parce qu'il y a les deux, il y a Ingres et Bourdelle qui tous les deux étaient originaires de Montauban.
Oui.
Et c'est vrai, c'est un lieu magnifique. Alors depuis qu'il est rénové, franchement, je dis toujours aux gens, allez à Passion Baroque pour les concerts, mais arrivez plus tôt, allez visiter le musée Ingres Bourdelle, ça vaut le coup de faire d'une pierre deux coups, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, bien sûr. Je signale que juste après ce concert, au même endroit, à 14h30, et bien justement, la chorégraphe Béatrice Massin présente sa conférence « La danse baroque, une matière pour une création contemporaine ». Alors là, en fait, elle retrace un peu le parcours qui l'a amené de ce qui était à la base en fait, des recherches sur la danse baroque.
Oui.
À une démarche de création contemporaine qui intègre justement les éléments qu'elle a étudiés.
C'est très intéressant d'avoir écouté l'enregistrement de Christina Pluart. Parce qu'en fait, on se dit, mais où est Handel ? Handel, il est dans la structure. Si on a dans l'oreille l'original, on a la grille, ce qu'on a, en jazz on appelle ça la grille, c'est-à-dire l'enchaînement des accords et la rythmique, ils sont respectés, il y est toujours Handel. Mais après, on va broder, on va aller sur d'autres, comment dire, d'autres expressions mélodiques, mais en gardant quand même le squelette harmonique. C'est la même chose qui se passe en danse. Elle va nous expliquer comment, à partir de la structure de la danse baroque, on peut aussi partir sur d'autres moyens d'expression, mais en respectant ce schéma de départ.
Alors oui, ça c'est passionnant, le mécanisme de la création, c'est toujours passionnant, lorsque c'est la créatrice elle-même qui le décrit, ça l'est encore plus.
Et, oui.
Et puis vendredi 8 octobre à 20h30 à l'église Saint-Joseph de Montauban, un autre grand moment de ce festival 2021, la soprano Monique Zanetti, accompagnée par la théorbiste Claire Antonini, la gambiste Sylvie Moquet et l'organiste Dominique Serve, va chanter les leçons de ténèbres. Alors il y en aura deux, il y aura celle de Michel Lambert et celle de François Couperin. Et là il faut nous présenter et la chanteuse et les œuvres qu'elle va interpréter.
Oui, 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 Monique Zanetti. On a travaillé ensemble depuis, bon, je n'ose pas dire combien d'années d'ailleurs. C'est une des grandes voix, franchement, des grandes voix françaises. Elle a été et elle est toujours énormément appréciée de William Christie. Elle a fait partie de la première équipe des pionniers.
Des
arts florissants, des grands chanteurs de l'époque vraiment extraordinaire à cette époque. Et donc, je veux vraiment rendre hommage à des amis de notre génération qui ont encore des choses à dire. Le jeunisme, c'est peut-être bien, mais il faut aussi quand même se souvenir qu'il y a des grands artistes qui sont encore vivants. Voilà.
Et donc, puis, dont beaucoup, ceux dont vous parlez, ont débroussaillé quand même un petit peu le chemin pour les baroqueux d'aujourd'hui. Hein.
C'est cela. Exactement.
C'est ça, il faut s'en souvenir.
Oui, 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 bien sûr. Et donc, je veux absolument pas qu'on les oublie. J'ai tenu à inviter Monique, qui a donc sorti un disque des Leçons de Ténèbres de Lambert, qui était un compositeur français 17e, avant Couperin. Et c'était une musique qu'ils ont restituée. Ils ont beaucoup travaillé sur ces Leçons de Ténèbres. Et on va entendre donc comparer les deux pièces. On a travaillé à une petite scénographie, a fait une petite mise en scène, c'est-à-dire que, comme j'avais fait pour les Lamentations de Gilles il y a longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la cathédrale Saint-Étienne,
oui.
On va trouver un chandelier avec 15 chandelles, et progressivement, au fur et à mesure du concert, comme ça se faisait lors de l'Office des Ténèbres, progressivement, on va éteindre les 14 bougies. Donc,
jusqu'à la ténèbre complète.
Donc, chaque bougie symbolise un apôtre, il y a les trois Maries, et il ne reste que la dernière bougie qui est celle qui symbolise la présence de Jésus et sa résurrection.
Voilà, ces leçons de ténèbres qui sont des œuvres vocales sacrées, bon, assez typiques de la musique française de cette période.
Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, il y a, en Italie aussi on en trouve, mais c'est essentiellement en France que ce répertoire s'est développé.
Alors là aussi, il y aura une avant-scène sous la forme d'un dialogue entre Monique Zanetti et vous-même, Jean-Marc Andrieux, à 18h30 au Théâtre Olympe de Gouges, pas l'église Saint-Joseph, au Théâtre Olympe de Gouges. Nous allons écouter Monique Zanetti dans les Leçons de Ténèbres de François Couperin. C'est un extrait de la première leçon et elle est accompagnée à l'orgue par Dominique Dantan.
Thank you.
superbe Monique Zanetti dans cet extrait de la première des leçons de ténèbres de François Couperin. La chanteuse donne donc ces mêmes leçons de ténèbres de Couperin et celles de Michel Lambert vendredi 8 octobre à 20h30 à l'église Saint-Joseph de Montauban. La littérature est de nouveau à l'honneur samedi 9 octobre à l'auditorium du Conservatoire à rayonnement départemental de Montauban où il va y avoir à 14h30 une conversation avec l'écrivain Mathieu Mégevant. Là, il sera bien présent, toujours autour de son roman « Tout ce qui est beau ». Il faut préciser que ce livre donc est consacré à Mozart, mais que c'est le dernier d'une trilogie commencée avec le poète Roger Gilbert Lecomte, éminent membre de ce qu'on appelait le Grand Jeu, et poursuivi avec Toulouse-Lautrec, une réflexion sur les thèmes croisés de la création et de la destruction, illustrée par les destinées tragiques de trois génies morts dans la fleur de l'âge, et cette causerie est accompagnée de nouveau au pianoforte par Yasuko Uyama Bouvard.
Oui, je crois que c'était incontournable d'accueillir Mathieu. En fait, il ne pouvait pas venir mercredi puisqu'il était retenu à Genève. Et on a décidé bien de le faire venir samedi, mais en gardant la date de mercredi. Comme ça, tout le monde pourra venir les deux fois.
Et là, c'est gratuit. Donc là, privez pas, surtout, allez-y. Le même jour à 17h, et c'est gratuit aussi, il y a un impromptu programmé à Mémo. Mémo, c'est la médiathèque de Montauban. Et vous serez de la partie, Jean-Marc Andrieux. Qui et
oui,
que va-t-on pouvoir y entendre ?
C'est Stéphanie Settolo, qui est professeure de flûte-à-bec au conservatoire à Montauban. Je l'ai invitée à jouer avec ses élèves. Et elle m'a dit, mais il faut que tu joues avec nous. Alors ben, évidemment, je vais prendre ma flûte et les jouer avec eux. Et on va jouer de notre belle musique française pour flûte-à-bec, avec du Haute-Terre.
Haute-Terre, Dornel aussi ?
Dornel aussi, voilà, il y a une suite pour trois flûtes. Un petit moment de détente et puis de mise en valeur de jeunes élèves talentueux.
Et puis de compositeurs qu'on n'entend jamais non plus. Hauteterre et Dornel, donc là aussi il y aura de la découverte. Et enfin, le concert de clôture, toujours samedi 9 octobre au Théâtre Olympe de Gouges, avec des suites de danse de Rameau à 20h30 par les Passions Orchestre Baroque de Montauban, sous votre direction Jean-Marc Andrieux. Alors qu'est-ce que vous avez mis au programme ? Ça va être une succession de danses extraites d'opéra de Rameau, c'est ça ?
Oui. J'ai pris en fait 5 partitions qui sont des arrangements qui ont été édités par le Centre Musique Baroque de Versailles, des arrangements justement des suites de danse de 5 opéras. Alors je les cite, Hippolyte et Arici, Les Indes Galantes, Les Fêtes d'Hébé, Platée et Dardanus. Voilà, ces 5 opéras ont fait l'objet d'arrangements, comme je dis, édités. Et j'ai sélectionné, parce que sinon ça ferait un concert de 3h30, j'ai sélectionné les plus belles danses. Et alors, Pourquoi j'ai envie depuis longtemps de faire ces danses de Rameau? Et pourquoi il y a le thème de la danse? Il y a une logique, il y a le fait que l'un des principaux librettistes de Rameau, c'était Louis de Cahuzac, qui a écrit le livret de Zoroastre, qui a écrit le livret des Boréades, qui a écrit le livret des principaux opéras, enfin les plus importants de Rameau. Et Louis de Cahuzac est aussi l'auteur du Traité de la danse, qui a influencé tout l'opéra au XVIIIe siècle en France. Et ce Louis de Cahuzac, eh bien, il est né où ? Il est né à Montauban, c'est un Montalbanais.
Alors donc, un nom pareil, il pouvait être que local. Hein.
Ben, oui, mais pas forcément Montauban.
En tout cas, voilà, une des personnalités montalbanaises qu'on ne connaît pas et que je voudrais... Alors je vais en parler aussi, j'en parlerai lors du festival, mais j'évoquerai ce fait-là qui me semble quand même remarquable.
Effectivement, leur succession de menuets, de gavottes, de sarabandes, de chaconnes et de tambourins extraites des opéras que vous venez de citer. Il y aura là aussi une avant-scène à 18h30. Alors là, vous allez parler de l'œuvre de Rameau avec la violoniste Gilonne Gobert.
Oui, qui sera le premier violon pour l'occasion. Elle vient quelquefois jouer avec nous, Gilonne. Et pour l'occasion, elle sera donc premier violon de l'orchestre. Et je l'ai invitée à discuter avec le public, avec moi. On parlera aussi de la façon comment on fait pour interpréter Rameau, les coups d'archet, la prise de son, les cordes en boyau, le diapason, toutes ces choses-là, que le public aime bien entendre quand même. C'est intéressant de voir un peu, nous, les problèmes auxquels on est confrontés quand on veut restituer des œuvres telles qu'on pense qu'elles sonnaient à l'époque. Voilà.
Alors, je ne sais pas s'ils sont au programme, mais en parlant de tambourin, je propose qu'on écoute les deux que Rameau a insérés dans son opéra Dardanus. C'est une version de l'orchestre du XVIIIe siècle dirigée par Franz Bruggen. Thank you. Ben, en parlant de musique à danser, je ne pouvais pas trouver mieux, je pense. Donc les deux tambourins de la suite pour orchestre tirés de l'opéra Dardanus de Jean-Philippe Rameau, dans une version enregistrée par l'orchestre du XVIIIe siècle et dirigée par son chef historique Franz Bruggen, une des suites de danse de Rameau qui est peut-être au programme, je ne sais pas.
Oui, on sait, vous ne pouvez pas rater ça. Incontournable. Ça,
voilà, ouais. Programme du concert de clôture donné samedi 9 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges par les Passions Orchestres de Montauban sous votre direction Jean-Marc Andrieux. Le festival se termine en fait le 10 octobre, hein, encore au théâtre Olympe de Gouges, mais il s'agit surtout d'une journée de fête. Alors plutôt pour les petits le matin et pour les grands l'après-midi, encore que non, pour les petits.
Oui, pour tout le monde, et puis on vient danser, on va faire danser le public, vous allez venir, vous initier à la danse baroque.
Ah ben ça va être quelque chose.
Cher Eric, cher Serge,
Serge a l'air un peu...
Si. Ouais, ouais. Si.
Mais je pense pas que Serge.
Il y aura de l'arnica pour tout le monde.
Ah bon.
Voilà, donc le matin à 11h au Théâtre Olympe de Gouges, pour célébrer les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, il y aura un concert qui mêle poésie et musique de Charpentier et Clérambeau, donné par l'ensemble Lyra, et puis donc le bal baroque de 15h30 à 16h30, gratuit et ouvert à tous. Je crois qu'il y a un petit goûter aussi qui est prévu.
Parce que
c'est la fête à tout point de vue.
Bien sûr.
Voilà, et ce seront encore des musiques jouées par l'ensemble Lyra. Je signale en marge du festival une très belle exposition, ça vaut le coup d'y aller. Hein. Exposition de costumes d'opéra à la Maison du Crieur de Montauban, ça commence le 1er. Et puis là, ça va se poursuivre jusqu'au 31 octobre, vous avez tout le mois d'octobre, pour aller voir ces magnifiques costumes d'opéra. Voilà donc pour la programmation, la belle programmation, la très variée programmation de Passion Baroque 2021. Il nous reste un peu de temps avant la fin de cette émission. On va vous présenter l'opéra qui ouvre la saison 21-22 du Théâtre du Capitole. C'est la Gioconda d'Amilcare et Ponchielli. Il y a 5 représentations du 24 septembre au 3 octobre. Et c'est un double événement parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il s'agit d'une entrée au répertoire au Théâtre du Capitole, et parce que cette production est mise en scène par Olivier Py et qu'elle s'annonce assez sulfureuse, n'est-ce pas, Serge Chosy ?
Oui, en effet. Alors, il faut quand même préciser que l'opéra a été créé en 1876 et que ce seront les premières représentations de cet opéra à Toulouse. Ce qui est incroyable, parce que c'est quand même un opéra relativement célèbre d'Amilcare et Ponchielli, bon, qui en a composé 2 versions. Il y a une version ultérieure en 1880, et donc on aura droit en fait à une grande première à Toulouse de cet opéra dont l'action se déroule à Venise au XVIIe siècle. Alors, avec une intrigue très compliquée, je ne vais pas entrer dans les détails. La Gioconda, c'est une cantatrice, décidément, avec Tosca. Tosca est une cantatrice aussi. Donc, l'opéra a souvent bien aimé les cantatrices comme héroïne. Et donc, ce sera donné avec vraiment une affiche intéressante, hein, dirigée par le maestro Roberto Rizzi Benignoli, qui est un spécialiste de ce répertoire, et avec les débuts dans le rôle et à Toulouse du ténor mexicain Ramon Vargas, qui est un grand ténor, donc on est tout heureux de le voir. Et dans le rôle titre de Gioconda, c'est la grande Béatrice Uriamonzone. Alors, donc, comme vous disiez, cher Eric, la mise en scène d'Olivier Py est un peu sulfureuse. Alors, il s'agit d'une coproduction. Ça a déjà été créé
à la Monnaie de Bruxelles.
Donc, on sait déjà, puisque d'ailleurs il y a des vidéos, qu'il y a certains passages un peu limite pour le jeune public.
C'est les passages que je ne regarde pas, moi.
Oh là là. Bon, alors, le spectacle, voilà ce qu'a dit Christophe Gristy, le directeur du théâtre. Le spectacle est déconseillé au moins de 16 ans. Pas interdit, mais déconseillé au moins de 16 ans. Il paraît que dans le fameux ballet de la danse des heures, on est très éloigné du spectacle que nous avait montré Walt Disney dans Fantasia, avec les hippopotames et les crocodiles qui dansaient cette danse des heures. Donc ça sera très différent. Donc il faut le savoir à l'avance.
Voilà. Mais il ne faut pas voir le mal en pis.
Mais non, sûrement pas.
Voilà, de toute façon, c'est à découvrir au Théâtre du Capitole jusqu'au 3 octobre. Il y a 5 représentations et je me suis laissé dire que ça vaut quand même vraiment le coup d'aller voir ça. Enfin Serge, un petit mot sur le Consort Apollon, l'ensemble fondé et dirigé par Clément Lanfranchi, qui est en concert ce lundi 27 septembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas. C'est dans le quartier Saint-Cyprien, tout près des studios de Radio Présence d'ailleurs. Ils vont jouer un programme d'œuvres de Jean-Baptiste Lully et Jean-Philippe Rameau. Comme on se retrouve, c'est parfait, on reste dans la musique baroque française. Voilà. Alors quelles sont les œuvres qui vont jouer de Lully et Rameau?
C'est deux suites d'opéra, et il faut préciser que Clément Lanfranchi est vraiment un homme orchestre, puisqu'il est en même temps le claveciniste de l'ensemble, et donc je crois que c'est un spectacle, un concert auquel il faut aller.
On se demande ce qu'il ne sait pas faire, parce qu'il est claveciniste, organiste, il dirige, chanteur. Il a fondé son orchestre et il chante. Il a même chanté avec vous, Jean-Marc Andrieux.
Hier soir. Tout récent. Hier soir. Oui, avec l'ensemble Dulci.
Vous avez fait les 400 coups ensemble, c'est
on
ça
On a fait les 400 coups ensemble pour fêter les 400 coups de Montauban. Donc, musique au temps de Louis XIII. Voilà, il était là dans le cœur.
Voilà, il chante aussi avec le chœur Antifona, avec le chœur Dulci Jubilo.
Oui.
Voilà,
oui.
Mais je ne sais pas s'il a du temps pour faire autre chose.
Donc, très actif.
Pour le plaisir, un extrait des Indes Galantes en version suite pour orchestre. Et d'ailleurs, c'est un extrait qui est au programme de votre concert des suites de danse de Rameau. Jean-Marc Andrieux pour le concert de clôture de Passion Baroque. Le fameux rondo Les Sauvages, ici interprété par l'orchestre de la Chapelle Royale, dirigé bien sûr par Philippe Hervègue. Sauvage, le rondo des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau dans sa version suite pour orchestre interprétée par l'orchestre de la Chapelle Royale de Philippe Hervègue. C'est terminé pour ce numéro. Un grand merci à Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux d'en avoir été les invités. Je rappelle que la 7e édition de Passion Baroque, le festival fondé et dirigé par Jean-Marc Andrieux, a lieu à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne du 1er au 10 octobre. Le menu est copieux et très varié, mais tout est bon. Il va donc falloir goûter à tout ce qu'on vous présente. Pour ce faire, renseignements, réservations et achat des places en ligne sur le site www.les-passions.fr où vous pouvez trouver également le détail de la programmation. Je rappelle aussi que ce week-end se tient la 13e édition du festival Passe ton bac d'abord à Toulouse, avec notamment la Passion selon Saint-Jean donnée en clôture par l'ensemble baroque de Toulouse, dimanche 26 à 18h à la Halle au Grain. On peut consulter le site du festival pour réserver en ligne www.baroquetoulouse.com. Pour assister aux représentations de la Gioconda au Théâtre du Capitole, c'est au site www.theatreducapitole.fr qu'il faut se connecter pour réserver et acheter ses places. Et enfin pour le concert du Consort Apollon, ce lundi 27 septembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, les réservations et l'achat des billets en ligne sont disponibles sur le site www.leconsortapollon.com. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et excellente semaine musicale à tous.